Partir à l'autre bout du monde ou vivre dans le pays voisin, l'expatriation reste une aventure à part entière. Être bousculé dans ses habitudes, s'adapter à un nouvel environnement, se réinventer professionnellement, se découvrir un peu plus chaque jour, à coup sûr, vous écoutez The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs. Bonjour à tous, je suis Adeline Verdier-Velten, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous allez découvrir des histoires de vie, d'envie, des témoignages de femmes qui ont décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat durant cette parenthèse de vie à l'étranger. Courageuse, créative, innovante, solidaire, déterminée, engagée. Bienvenue dans l'univers inspiré et inspirant de nos musettes, nos expatpreneurs aux quatre coins du monde. Nouvel épisode sur The Musette. Cette fois-ci, j'ai eu la chance de converser avec Sophie, la fondatrice de Poésie by Sophie. Rien que le nom de son blog nous invite au voyage. Dans cet épisode, Sophie nous emmène dans ses souvenirs d'expatrié à Johannesburg et dans son voyage en famille autour du monde. Expatriation, entrepreneuriat, liberté, saut dans le vide. Elle vous en dit plus. Bonne écoute.
Bonjour Sophie.
Mais salut Adeline.
Eh ben écoute, je suis très très heureuse de te recevoir sur le podcast de The Musette, le podcast des expatriés entrepreneurs.
Ben merci de me recevoir.
Alors comment ça va Sophie en Belgique, car tu es belge, ouais. Et pour l'instant tu es retour en Belgique.
Exactement, donc là on est de retour depuis mars en fait, depuis le premier confinement. Écoute, ça va hein, comme tout le monde hein, dans la situation actuelle, donc toutes les frontières viennent de refermer, donc voilà. Comme
vous
tout le monde. Quoi.
Voilà, vous restez chez vous.
On est chez nous, ça c'est sûr.
Moi, je t'ai découverte lors de mes différentes pérégrinations sur Internet, et ça fait un moment que je te suis. Et ce qui m'avait attiré mon attention, c'est le fait que tu avais fait un tour du monde en famille, et j'ai appris plus tard que tu avais fait l'expérience de l'expatriation. Ouais, alors, on va commencer par l'expatriation. Tu as vécu 5 ans à Johannesburg, en Afrique du Sud. Est-ce que tu peux nous rappeler comment vous êtes arrivé là-bas?
Comme souvent, donc c'est un job qui a été proposé à mon mari. En fait, en Belgique, il était entrepreneur, il venait de vendre sa société et donc il cherchait un peu des nouveaux challenges, enfin un nouveau challenge professionnel. Et il a toujours rêvé de repartir en expatriation. Il a fait toute sa jeunesse en expat. Et on savait que c'était vraiment quelque chose qui nous tentait de vivre en famille. Et donc, il a un peu zioté sur les offres d'emploi à l'étranger. Et on lui a proposé un job à Johannesburg, en Afrique du Sud. Donc, le premier réflexe, c'est un peu de regarder sur Internet. Et voilà, Johannesburg n'a clairement pas une super réputation. C'est un peu effrayant.
Oui, c'est ça.
Sur Internet,
c'est ce que j'allais te demander, en effet.
La ville super dangereuse. Donc, on a eu franchement un petit peu peur au départ, mais ça a été vite effacé parce que j'ai eu la chance, via des groupes de femmes d'expats, d'être en contact avec des filles qui étaient sur place, avec qui j'ai pu discuter et tout ça, et qui m'ont dit « mais fonce, ça va être la plus belle expérience de votre vie, c'est une super expatriation, c'est en pays dingue, les gens sont adorables, la qualité de vie est géniale, c'est super facile ». Enfin, voilà, tout était bon. Et donc, assez vite, on a accepté et on est arrivé donc à Johannesburg avec nos 3 enfants qui avaient, enfin, assez jeunes, 6 ans, 4 ans, et notre dernière qui avait 1 mois tout juste. Donc, j'ai accouché juste avant de partir. Et puis, je suis arrivée en Afrique du Sud avec ces 3 tout petits.
Alors, donc, en fait, les préjugés qu'on a sur l'Afrique du Sud, c'est faux, c'est vrai.
C'est quand même une vieille mauvaise réputation que Johannesburg traîne, c'est-à-dire que clairement, il y a 20 ans, ce n'est pas la même chose que maintenant, et donc elle traîne un peu cette réputation. Alors il y a toujours des problèmes de sécurité, de criminalité, mais actuellement, ils sont quand même vraiment principalement concentrés dans des quartiers où tu n'as aucune raison d'aller, si tu veux. Oui, il y a un haut taux de criminalité, enfin, quand je dis criminalité, enfin oui, de problèmes, passe dans des townships où tu n'as vraiment aucune raison d'aller. Donc, nous, en 5 ans, on n'a jamais eu le moindre souci, jamais eu le moindre stress. Et donc, voilà. Après, il y a clairement des mesures de sécurité à prendre, des bonnes habitudes. Tu ne vis pas à Johannesburg comme tu vis en France ou en Belgique. Donc, ça, c'est certain. Mais ce n'est pas plus dramatique que d'autres villes d'Afrique ou d'Amérique du Sud qui peuvent être même parfois beaucoup plus dangereuses que Johannesburg.
Oui, des fois, par exemple, au Brésil, on
Ah
peut se
ben,
faire enlever aussi, quoi.
bien
Donc,
plus, non,
hein?
à Johannesburg, t'as
Ouais.
pas les enlèvements. Non, non, je pense que, par exemple, les villes brésiliennes sont beaucoup plus dangereuses que Johannesburg. Donc voilà, c'est clairement une mauvaise réputation, une image qui lui colle encore un peu à la peau. Et même, par exemple, par rapport à Cape Town, qui est la ville touristique d'Afrique du Sud, qui est une ville extraordinaire, et les touristes ont la fausse impression que Johannesburg est ultra dangereuse et Cape Town est safe, alors qu'en fait, ils ont le même taux de criminalité et que... Voilà, c'est la même chose, quoi, d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, y a certainement rien, enfin, c'est pas parfait, mais il y a certainement quand même une mauvaise réputation qui n'est pas tout à fait justifiée à ce point-là, disons.
Ok, et est-ce que tu as vu ou ressenti encore tu sais, des signes d'apartheid ou c'est carrément, voilà, c'est aussi ça de l'histoire ancienne,
Ah oui,
je sais
non,
pas, dans des...
c'est quand même ancré dans le pays. Il y a encore, enfin voilà, les blancs sud-africains. Il y a ceux qui viennent plutôt du côté anglais et ceux qui sont afrikaners. Les afrikaners sont généralement pas très sympas avec les noirs sud-africains. Et puis c'est surtout, ça disparaît pas en fait comme ça en 20 ans, ou enfin un peu plus que 20 ans là, mais ça disparaît pas comme ça malheureusement en quelques générations parce que. Enfin oui, quand tu vois par exemple dans la rue, partout, ceux qui vont mendier au carrefour, ceux qui vont être jardiniers ou femmes de ménage, c'est toujours les Noirs en Afrique du Sud. Donc il y a quand même encore des grosses disparités, il y a des gros problèmes encore dans l'éducation. Donc l'école publique, c'est un gros souci. Les écoles privées sont extrêmement chères et les écoles pu publiques, c'est des classes bondées avec un prof dépassé. Il y a plein de choses encore à faire, mais ce que j'ai aimé à Johannesburg, justement, c'est que c'est une ville qui est très mixte. C'est une ville aussi un peu artiste. Il y a vraiment des quartiers entiers avec, tu sais, des petits marchés, des galeries d'art, des concerts qui s'improvisent sur les toits et tout. Et toute cette jeune génération, tout ce milieu-là est très, très mélangé. Et j'avais un peu l'impression d'assister à l'Afrique du Sud de demain, quoi, tu vois, ce côté très mélangé. Ce qui n'est pas le cas de Cape Town, qui est une ville très blanche, en fait, où t'as pas du tout cette mixité. Donc, Johannesburg, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que, voilà, c'est le cœur historique aussi du pays. Il y a beaucoup de choses qui sont passées là, mais tu vois aussi l'Afrique du Sud de demain qui est là, quoi.
Tu vois les deux.
Ouais.
Et alors, je parle pour ta fille la plus grande. Est-ce que elle a ressenti cette différence ou alors pas du tout parce que
Elle est
ouais, t'es encore un
arrivée,
peu
elle avait
petite, mais bon.
6 ans, tu vois. Je pense que c'est au fur et à mesure. Donc, petite, non. C'est au fur et à mesure des années qu'ils perçoivent, en fait. C'est pas aussi lisible, c'est pas des choses, il n'y a pas des interdictions. Enfin, voilà, il n'y a plus l'apartheid, hein, c'est sûr. Mais les inégalités, je suppose que voilà, tu le ressens. Elle s'est habituée à voir les mêmes personnes mendier au carrefour. Oui, les inégalités, bien sûr, elle l'a ressenti au fur et à mesure des années. Mais c'est pas aussi. Avant de venir en Afrique du Sud, les gens me posent souvent la question, est-ce qu'il y a encore l'apartheid? Enfin, voilà, mais
Mais voilà, c'est
c'est
ça.
compliqué, c'est pas noir et blanc. Enfin, noir et blanc, c'est le cas de le dire, mais tu vois,
Mais
c'est pas aussi
voilà.
binaire, en fait. Tu vois, c'est pas aussi binaire et c'est pas toujours facile, quoi.
Bien sûr. Et donc tu disais que dans le style de vie que tu aimais, c'est cette énergie au final qui s'en dégage, quoi.
Exactement.
Le style de vie des Sud-Africains.
Exactement, c'est qu'en fait, Johannesburg, j'ai eu l'impression, alors j'ai pas vécu ça, mais d'être un peu, tu sais, dans le Berlin après la chute du mur, c'est une ville qui a été vraiment, après la chute de l'apartheid, justement, c'est devenu un ghetto, c'est devenu très dangereux et tout ça. Et depuis 20 ans, c'est une ville qui est en plein renouveau. Et donc, il y a une énergie, tu sens que tout est possible. Il y a des quartiers entiers qui sont réhabilités. Moi, j'ai vu la différence dans les 5 années qu'on a passées, mais c'est extraordinaire. Tout ce qui s'est créé, tout ce qui a changé, c'était vraiment très, très même hype, quoi. Tu vois, des restos, tu te croirais à New York, dans des quartiers vraiment hyper sympas. Donc, vraiment, des trucs que je n'ai pas retrouvés ici en Europe, parce que c'est des.
Ouais, donc il y a eu vraiment un avant-après, quoi. Il y a vraiment un
Il y a
avant-après.
vraiment un avant-après et être là, enfin voilà, tu ressens cette énergie, c'est palpable, tu as l'impression que tout est possible et que voilà, qui sont au début. Tu vois fort la différence avec l'Europe qui te paraît toujours un petit peu sur la pente descendante, tu vois, c'est la crise, c'est voilà. Et là, tu te dis en fait, ils ont tout à faire, quoi, ils ont tout à faire et tout est possible. Et
C'est
tout n'est pas
sympa.
facile, hein. Voilà.
Oui, bien sûr, mais enfin voilà, ça donne un peu d'espoir et de se dire, bon bah voilà, ils sont au début de quelque chose
Exactement.
ça va donner quelque chose de joli, quoi.
Exactement. Donc c'était vraiment, voilà, nous on a adoré. On a vraiment
Donc ça va
adoré, adoré,
adorer.
ouais.
Et alors pour aller un petit peu plus loin, si certains ils ont envie de s'expatrier là-bas, est-ce que tu peux rapidement nous parler du système scolaire, du système éventuellement de santé et s'il y a des démarches
Alors,
pour s'installer là-bas, si c'est
c'est
compliqué
vraiment une
ou pas, tu vois?
expatriation dans l'ensemble super facile. D'abord, c'est un pays assez moderne. Par exemple, pour parler de la santé, le système de santé est vraiment à la pointe. Alors, c'est encore assez inégalitaire parce qu'il y a le système public et privé. Mais généralement, quand tu es envoyé en tant qu'expat, ben, tu prends une bonne assurance privée. Mais les hôpitaux, les pharmacies et tout, quand je reviens en Europe, j'ai l'impression qu'on est complètement retardé par rapport à ce qui se passe là-bas.
Ah,
Donc, c'est
c'est
vraiment
fou, c'est
l'inverse,
fou.
tu vois. Donc,
Ah non, mais c'est fou parce qu'on n'a pas du tout
Ah ben non, t'as pas
enfin,
du
moi,
tout
dans ma
cette
tête, alors j'imagine que je
impression-là.
suis pas la seule, on a l'impression que c'est ils sont plus en retard, mais pas du
Pas
tout,
du
alors.
tout. Après, l'Afrique du Sud et encore plus les villes sud-africaines, c'est pas l'Afrique non plus. Enfin, tu vois, c'est pas du tout ce que tu vas
Oui,
retrouver au
bien
Mozambique, au
sûr. Non.
Malawi et tout ça.
Bien sûr,
Mais
bien
l'Afrique du
sûr.
Sud, donc les villes, c'est vraiment des villes très modernes, avec des hôpitaux ultra modernes. C'est là qu'il y a eu la première grève du cœur au monde. Enfin, c'est vraiment très, très moderne, très à la pointe, très bien organisé. Tout est facile, tu trouves des supermarchés de dingue où vraiment tu regrettes pas du tout, tu trouves tout ce que tu trouves en France, pratiquement tout quoi. Bon, je pense que mes amis français là-bas regrettaient de temps en temps le bon fromage ou des trucs comme ça, mais voilà, tu
Oui,
prends,
mais ça, c'est
c'est
partout
partout
pareil.
pareil. Mais sinon, vraiment, tu trouves tout. C'est une qualité de vie qui est quand même géniale parce que c'est une ville très verte, ça aussi, je m'y attendais pas. Moi, j'avais une image. J'ai pas fait de voyage de reconnaissance parce que j'étais enceinte, en plus une grossesse compliquée, et donc j'ai débarqué là un peu, tu vois, sans savoir vraiment à quoi, enfin voilà, à quoi m'attendre. Et c'est une ville très verte, très lumineuse. C'est assez étendu comme ces villes un peu à l'américaine, donc il n'y a pas un centre très dense en fait. Et la plupart du temps, tu as des buildings, mais le maximum de, enfin quelques étages en fait. Et sinon, c'est des maisons entourées de jardins, ça croule, tu sais, sous les bougainvilliers. C'est vraiment une chouette ville. Tu as généralement une belle maison, une piscine, t'es aidée. Enfin, vraiment, voilà, c'est une expat.
Il y a plus dur.
Voilà, il y a plus
Il y a
dur.
plus
Et
dur.
d'ailleurs, je te dirais que dans la communauté d'expats, il y en a pas mal, c'était leur deuxième, troisième, quatrième expatriation, ils disaient tous que là, c'était le gros lot, en fait. Hein. Que c'était...
Ah oui,
Ouais,
d'accord.
c'était leur endroit où la vie était la plus douce, on va dire. Parce que le climat aussi est dingue. C'est un des meilleurs climats au monde, Johannesburg. Parce qu'il fait jamais trop chaud, mais l'hiver est super doux, toujours ensoleillé, donc c'est vraiment un super climat. Et je dirais les points négatifs, ben, c'est la sécurité, ça c'est sûr. Donc voilà, tu vis pas, tu choisis ta maison, tu fais attention. Il y a des choses, des critères auxquels tu fais attention, auxquels tu penses peut-être pas ailleurs. Et je pense que pour certaines personnes, c'est anxiogène. Moi, je suis du genre assez relax et c'est vrai que franchement, en 5 ans, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas dérangé. Et je dirais l'autre critère qui est peut-être compliqué, c'est que justement au niveau de job, les visas de travail sont très compliqués à obtenir. Donc si tu viens pas avec ton visa de travail en poche, c'est compliqué sur place de décrocher un job. Donc
Ah oui,
justement pour
donc.
le conjoint qui suit, c'est vraiment pas évident de sur place trouver un boulot, quoi.
Et alors là, en rebondissant sur ce que tu dis, on va s'attaquer un petit peu, tu sais, au cliché
Ouais.
sur l'expatriation, parce que là, voilà, ça nous fait rêver. Et alors, il y en a qui peuvent. Bah, donc ça va, vous avez la belle vie, etc. Mais en même temps, voilà, être conjoint suiveur ou alors celui qui est en même temps qui part travailler là-bas, voilà, tu peux être femme d'eux. Est-ce que toi, tu as ressenti
Alors oui, je
ce...
l'ai ressenti clairement. Après, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu. J'ai trouvé que c'était vraiment un saut dans le vide. Donc, on quittait toute notre routine, nos boulots ici, notre maison et tout. Donc c'était quand même un sacré saut dans le vide. Il faut avoir une vraie confiance en son conjoint, en son job, en la vie en général. Enfin, tu vois, voilà, tu te lances un peu. Voilà, tu arrives comme ça. Après, clairement, clairement, tu es femme d'eux, ça c'est certain. Je dirais que moi, ça m'a pas embêtée plus que ça parce que. Au contraire, je voulais en profiter, en fait. Ça faisait 10-15 ans que je bossais comme 10 ans que je bossais comme juriste. J'avais envie de changer d'air, de faire autre chose. J'étais enceinte, donc quand on nous a proposé le job de notre troisième, les deux autres, elles sont retournées, comme toujours, à la crèche, au bout de 3 mois après la naissance. Et finalement, tu vois, ça va tellement vite. Et donc là, quand on nous a proposé ça, je me suis dit, bah, OK, ça va être ma parenthèse. Ça va être... Enfin, voilà, je vais vraiment en profiter, quoi. Je vais profiter de notre dernière, je vais profiter de la famille, je vais voyager, je vais me la couler douce. Et en fait, j'avais pleinement assumé ce côté-là. Je ressentais pas, quand je suis arrivée là-bas, je ressentais pas spécialement le besoin de bosser, comme j'ai plein de copines qui l'ont ressenti directement et qui étaient frustrées si elles n'y arrivaient pas.
Si on
Voilà,
faisait
moi,
pas.
je savais que, en tout cas, pendant 2 ans, j'étais contente de ce schéma-là, si tu veux. Et oui, effectivement, j'étais conjoint suiveur, femme deux, si tu veux. Mais disons que moi, ça m'allait pour ces 2 premières années-là. Je me dis, enfin, voilà, j'étais, je suis partie en me disant, je vais en prendre le bon, quoi.
Oui, bien sûr. Et alors, j'avais fait une interview avec Mademoiselle Sophie qui est à New York et qui vient de rentrer en France, où elle disait, mais quelque part, tant mieux que quand on part en expatriation, on soit pas mal aidé et qu'il y a pas mal de choses, parce que
Ah oui,
justement, on part, on ne sait rien
tu
du
sais
pays, de la
rien du
culture,
pays,
des.
rien. Et alors moi, c'était ça ma panique, c'est que j'arrivais quand même avec
Oui.
un bébé d'un mois. Donc tu vois, tu connais le chaos du post-naissance où tu te dis, ben voilà, où tu dors pas, où de toute façon ta vie est un chaos, en gérer 2 aînés, plus un nouveau-né et tout ça. Mais en fait, t'ajoutes à ça l'arrivée dans un nouveau pays où tu dois tout découvrir, trouver où acheter à manger, avoir un téléphone, enfin voilà, tout découvrir, plus ok, un pédiatre, comment je vais faire les vaccins, est-ce que les filles vont se plaire à leur école, enfin voilà. Et je me suis dit, mais en fait, je me souviens, avant d'y aller, j'ai vraiment eu un grand moment de découragement en me disant, mais je vais jamais y arriver, quoi, je vais jamais y arriver, c'est juste trop, quoi, tu vois. Et en fait, alors, je pense que déjà une troisième, c'est plus simple que peut-être les aînés. Enfin, voilà, j'étais sans doute plus relaxe, plus habituée. Et puis, j'ai eu la chance aussi que mon mari parte avant moi et il a bien balisé le truc. Donc, on avait la maison. Quand moi, je suis arrivée, on avait la maison, on avait reçu le déménagement, il avait tout installé. Donc, voilà, il avait vraiment bien balisé le truc et donc, j'étais assez contente, quoi. Et puis,
Ça a facilité,
finalement.
mais comme quoi c'est pas.
Bah, je t'ai dit, c'est vraiment facile comme pays. Donc, tu sais, bêtement, pour les vaccins et le suivi du nouveau-né, je me suis rendu compte que les pharmacies en Afrique du Sud, c'est pas des pharmacies comme chez nous, c'est des très grandes pharmacies qui font penser à des mini-supermarchés et dans lesquelles il y a une espèce de mini-clinique où il y a une nurse, une infirmière qui vient, qui fait des permanences 2, 3 fois par semaine. Et tu peux venir même sans rendez-vous avec ton bébé, elle va le peser, le mesurer, elle va te conseiller sur les vaccins, sur l'allaitement. Enfin, en fait, je me suis dit, mais c'est génial, c'est hyper simple. En fait, plutôt que prendre rendez-vous avec ton pédiatre qui est toujours débordé, pour des trucs un peu basiques, eh ben, c'est simplement une infirmière qui fait ça. Voilà. Donc finalement, tout était plus facile que ce que j'ai imaginé et ça s'est très bien passé.
Et le système
Alors, le
scolaire
système
aussi,
scolaire, nous, on a choisi le
c'est
lycée
ça.
français. Donc, voilà, on avait la chance d'avoir un chouette lycée français qui était dans la ville de Djobourg. Les filles ont tout de suite aimé. Donc, voilà, on s'est pas compliqué la vie. C'était plus simple. Alors, il y a le
Oui.
système sud-africain qui est franchement bon, en tout cas pour les écoles privées. Mais les vacances étaient inversées. Ça veut dire qu'on ne savait pas pour combien de temps on restait non plus. Donc, voilà,
Bien sûr.
c'était clair que ce n'était pas la meilleure solution pour nous, quoi. Donc
Ok, je
voilà,
comprends.
facile, franchement facile.
Bon, très bien. Donc, je pense qu'on va partir après,
Ah
là-bas. Dis-moi, je voulais maintenant qu'on parle un peu de votre super expérience
ouais.
du tour du monde. Alors, beaucoup voudraient réaliser, hein, moi la
Ouais,
première, je
il
crois.
faut, il faut.
Très bien sur ton site Crazy by Sophie. Alors, une des premières réflexions que je me suis faite, moi, c'est de me dire, enfin. Voilà, vous partez avec vos filles qui sont quand même en bas âge, ou en
Non,
tout
pas
cas
en
pas en
bas
bas
âge,
âge, mais je veux dire pas bas âge,
en âge
en effet,
scolaire.
ton aînée elle
Ouais,
avait 3 ans,
elle avait 12
et
ans
voilà,
quand on est
on
parti,
s'est
elle a
avec
eu 13 ans autour du monde.
Voilà, et la petite elle
Ouais,
avait
c'est ça.
6 si j'ai bien lu. C'est pas un frein cet âge, voilà, est-ce que
Alors,
les gens peuvent, bon, en fait c'est un peu
en fait, il n'y a
pas
pas d'âge idéal. Je dirais que quand tu pars avec des plus jeunes, tu as le gros avantage de ne pas avoir l'obligation scolaire à assurer. Donc, c'est-à-dire que tu dois, enfin, si tu pars avec des petits, bah voilà, tu t'as pas de cours à donner, t'as pas de homeschooling tout au long du voyage et tout ça. Donc, ça, c'est vrai que ça doit être top. Par contre, le fait d'être partie avec des plus grandes, d'abord, je pense qu'elles s'en souviendront sans doute plus, ça c'est une chose. Mais
Oui.
surtout, moi j'ai vraiment vu que c'était énorme pour nous, c'est qu'elles étaient assez autonomes. Si tu veux, effectivement, on devait gérer l'école, mais après, elles jouent seules entre elles. Notre aînée, si tu veux, elle a eu 13 ans pendant le tour du monde, donc très souvent, on les laissait quand même quand on était dans des villes, des trucs comme ça. Si tu veux, on leur faisait des pâtes, on leur mettait une série le soir sur Netflix et on se faisait un resto à deux. Ce qui était pour nous génial parce que quand tu es 24 heures sur 24 pendant un an à 5, d'avoir ces soupapes de
Oui.
décompression, de pouvoir de temps en temps, tu vois, te retrouver à deux. Voilà, enfin, la journée, on allait parfois faire une promenade à deux pendant que les filles étaient à la maison. Et je pense que nous, ça a vraiment permis de bien gérer justement le fait d'être tout le temps ensemble. Et que si tu as des petits, ça doit être beaucoup plus contraignant et beaucoup plus, beaucoup plus intense. Tu vois, tu as moins de
Oui, bien
soupapes
sûr.
pour décompresser. Donc, je pense que franchement, tous les âges ont des avantages, des inconvénients. Et c'est un peu comme ça, quoi.
Vous vous êtes
Voilà,
pas
on
pris
s'est
la
pas
tête,
pris la
quoi.
tête.
Vous
Et d'ailleurs, en fait, tu le fais un peu quand tu peux. Nous, on voulait le faire l'année d'avant, ça
Oui.
s'est pas mis. Je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal, mais par contre, quand tu vois un créneau dans ta vie pour le faire, il faut sauter sur l'occasion.
Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir là comme ça au bout
Alors,
du
en fait,
monde,
c'est drôle, hein,
fleur au
mais je
fusil?
pense qu'il y a des gens qui ont vraiment ce rêve depuis leur enfance. C'est un vieux rêve et tout. Nous, c'était pas du tout le cas, honnêtement. C'est vrai, c'est pas quelque chose auquel je pensais, adolescente ou même jeune mariée et tout. Et c'est finalement de vivre en Afrique du Sud, d'énormément voyager en famille en Afrique du Sud, de plus en plus, si tu veux. Et puis le blog a fait qu'on a voyagé encore de plus en plus et tout, et de tellement aimer ça, de tellement profiter de ces moments-là, de voir tout ce que ça a apporté de bon pour nous, pour les enfants et tout. Ça, c'était le premier, si tu veux, le premier déclic. Et puis, moi, avec mon blog de voyage, je suis en contact avec pas mal de gens qui voyagent. Je suis sur des forums, je suis pas mal de sites et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de familles qui faisaient ça en fait. Je me rendais pas compte avant. Il y a une énorme communauté de familles qui font des tours du monde. Enfin, quand je dis des tours du monde, ça peut être des tours d'Asie, enfin voilà, des grands voyages. Et j'étais fascinée en fait. J'ai suivi plein de familles, j'ai suivi leurs préparatifs et ça m'a fascinée. Et je me suis rendu compte, voilà, que beaucoup de gens le faisaient, que c'était pas facile, qu'il fallait se battre un peu pour y arriver. Et puis on était à la fin de notre expatriation en Afrique du Sud. On venait de passer 5 ans là-bas. On savait que son job se finissait. A priori, il n'y avait pas un autre poste à l'étranger. C'était plutôt le retour en Belgique. Et en un coup, j'ai vraiment eu, je me souviens, mais comme un flash, quoi. Je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. En fait, on va se retrouver dans une situation complètement idéale. Si tu veux, on rend notre maison ici. On est propriétaire de rien. On avait vendu entre-temps notre maison en Belgique. On est propriétaire de rien. Toutes nos affaires vont quand même être dans des caisses, dans un déménagement. On vend les voitures. Les filles quittent l'école ici. Et donc, en un coup, peut-être pour la première fois de notre vie, on n'avait plus aucune chaîne. Donc, si on revenait en Belgique, on allait en reprendre d'autres, évidemment. Mais on était complètement
Bien
libre.
sûr.
Et donc, je me souviens, un soir, on va au resto, juste mon mari et moi. Et je lui dis, écoute, j'ai une idée un peu folle. Tu vas pas y croire, chérie.
Chérie,
Je lui dis, en fait, je pense qu'on devrait partir faire un tour du monde. Je pense qu'il s'est à moitié étouffé quand je lui ai dit. Mais c'est le genre à adorer. Enfin, voilà, lui, il est hyper aventurier. Il
prépare-toi.
a toujours beaucoup voyagé avec ses parents. On avait vraiment beaucoup voyagé. Et je lui explique un peu, tu vois, ma vision des choses. Que voilà, d'abord, je rêverais de faire cette expérience-là d'un voyage à beaucoup plus long terme, beaucoup plus libre, où tu sais, t'as pas de délai, de deadline, d'horaire et tout. Et je lui dis, mais en fait, quand on regarde sur papier, on est dans une situation complètement idéale pour le faire. Tu vois, par rapport à toutes les familles qui devaient vendre, louer,
Bien sûr, bien
quitter un
sûr.
job, je dis, mais en fait, voilà, c'est la situation, c'est maintenant, quoi. Et donc, on commence vraiment à réfléchir sérieusement, on met tout en place et tout ça. Ça, c'était donc, enfin voilà, quand on s'est décidé, c'était plus ou moins à Noël et on s'était dit on partirait l'été d'après, quoi, donc 6 mois après. Et pendant ces 6 mois, on met tout en place et ça avance vraiment bien. On fait des devis pour les billets d'avion et tout. Et puis là, malheureusement, le jour où on allait payer nos billets d'avion autour du monde, on apprend que mon beau-père, qui avait déjà un cancer depuis quelque temps, son état se dégrade, quoi. Et vraiment, les médecins étaient malheureusement assez pessimistes. Voilà, et donc là, on s'est dit, en fait, voilà, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir, on ne peut pas être à l'autre bout du monde et stresser chaque fois que le téléphone sonne et pas profiter de ses derniers moments si c'est ses derniers moments. Et donc, on annule notre tour du monde. Enfin, voilà, on abandonne toutes les démarches et on se dit, on va rentrer en Belgique. Et on rentre effectivement en Belgique au bout de nos 5 ans en Afrique du Sud. Et on passe, si tu veux, une année scolaire en Belgique où vraiment c'était là qu'il fallait être. Mon beau-père, malheureusement, décède quelques mois plus tard. Et c'était vraiment, voilà, c'était là qu'il fallait être. Il n'y avait pas de doute. Donc on ne regrette pas du tout notre décision. On a un peu mis de côté notre tour du
Bien
monde.
sûr.
Si tu veux, on a loué une maison, racheté des voitures, les filles sont à l'école. Enfin, finalement, on a repris toutes ces chaînes qu'on avait avant. Et aux alentours de Noël, donc 1 an après, on commence quand même à y repenser, tu vois. On se dit, mais en fait, est-ce qu'on va pas le regretter toute notre vie, quoi? Est-ce que, mais je, c'est moins facile, la situation est moins idéale, mais est-ce qu'on va pas le regretter toute notre vie si on ne le fait pas? Et donc, on commence tout doucement à voilà, réfléchir, mais sans en parler, parce que nous-mêmes, on n'y croyait pas trop. On avait dû une première fois
Vous aviez
d'annuler.
peur.
On ne voulait pas, tu vois, que ça s'annule une
Oui.
deuxième fois. Les filles, on leur avait annoncé la première fois qu'on allait partir en tour du monde, et on avait dû dire que non, on ne partait pas, tu vois. Donc, voilà. Et donc,
Oui, bien
on
sûr,
s'est
c'est
délicat, et donc,
délicat.
finalement, on s'est vraiment décidé, on l'a réannoncé aux filles en mars pour partir en juillet, tu vois. Donc, ça s'est fait assez vite. Voilà. Et
Bien,
donc,
ça c'est
voilà. Donc,
sympa.
finalement, ce n'était pas la première fois.
Oui,
Donc, on ne réalise pas toujours ses rêves du premier coup. Il faut parfois y
c'est
croire et
ça.
puis on continue à se battre. Et parfois, la situation est moins idéale, mais c'est faisable. Honnêtement, dans tout ce que j'ai vu, dans toutes les familles qui partent, c'est faisable, quoi. Quand on le veut, c'est vraiment faisable.
Ok, cool. Et alors, vous avez fait pas mal de pays, hein. Vous faites Japon, Polynésie, Chili,
Voilà.
Argentine,
Ouais.
Australie, enfin, et plein, plein, plein. Est-ce que ce tour du monde, est-ce que tu ne l'aurais pas ressenti comme plusieurs petites expatriations de courte
Ah
durée ou
non,
pas
pas
du
du tout.
tout? C'est pas du tout la
Pas du
même.
tout, parce que on s'est quand même jamais installé assez longtemps à un endroit pour se sentir expatrié dans un pays. Et puis alors aussi, ce que je remarquais aussi, moi j'ai adoré mes expatriations, mais ce que les gens n'imaginent pas, ils pensent qu'on passe notre journée au bord de la piscine en expatriation. Ce n'est pas ça.
Ah
Voilà,
bah oui.
c'est vrai, j'avais une piscine, mais franchement, et il faisait beau tout le temps, mais je pense qu'on se baignait que le week-end, parce que t'as une routine, quoi, t'as une vie comme tout le monde, comme ceux qui sont en France, et donc t'as les enfants qui vont à l'école, qui ont des devoirs, qui doivent aller chez l'orthophoniste, qui doivent aller chez la kiné, qui doivent aller dans leurs activités, tu vois, extrascolaires. Donc en fait,
Oui.
comme n'importe qui, en expatriation, tu as une routine, un horaire, tu vois, tout est assez balisé.
Puis les
Voilà.
problèmes s'arrêtent pas
Aux
et les petits
frontières.
problèmes s'arrêtent pas aux
Bah
portes
non,
du pays
forcément.
que t'as
Et
lâché,
tu as
quoi.
ton job, et tu as... Enfin voilà, donc finalement, une expatriation, oui, c'est la routine, c'est une vie normale, mais seulement un peu plus exotique dans le cadre, quoi, tu vois. Tandis que là, ce n'était pas du tout le cas. Pendant 8 mois, on n'a eu aucun horaire, aucune contrainte extérieure, aucun rendez-vous, un agenda vierge, pas de réveil. Donc le bonheur total. Hein, oui.
Ouais, ça c'est fou, ça
Moi,
et
c'est
ça.
vraiment ce que je cherchais. En fait, c'est plus que le voyage en lui-même. J'avais vraiment ce sentiment, mais je pense que c'est avec les enfants qui grandissent. 3 enfants, tu vois, une qui rentrait dans l'adolescence clairement et tout. Finalement, ça prend de plus en plus de temps. Temps aussi, même si c'est pas aussi, disons, chaotique, aussi bruyant, mais c'est finalement plein de choses organisées. J'ai l'impression parfois d'avoir des agendas de ministre pour chacun de mes enfants, quoi. Et en fait, il y a un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Nos vies sont trop remplies, on court après le temps, on s'impose toutes ces contraintes extérieures. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie? Et donc, j'avais envie d'appuyer sur pause. Vraiment, pause. Et c'est vraiment ça qu'on a fait pendant 8 mois, c'est-à-dire que agenda vierge, pas de réveil. Alors, ça ne veut pas dire qu'on était super relax. On avait des journées vraiment remplies, parce qu'il y avait justement le homeschooling, qu'il fallait préparer le voyage, tu vois, tout le temps organisé un peu au jour le jour. Mon mari bossait quand même à distance. Donc, en fait, nos journées étaient très remplies, mais on était les maîtres de notre temps. Voilà, c'est ça comme ça que je le définirais, et ça change tout.
Oui,
Ça change vraiment tout. C'est beaucoup. C'est
c'est beaucoup
vraiment
ça.
beaucoup. Et vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Et je dirais que le retour n'est pas évident quand tu replonges dans justement les horaires et tout ça.
C'est ça.
C'est pas évident, quoi. C'est pas évident.
Bien sûr. Ah, je me doute, hein, je me doute. Et donc, ce que tu apprécies le plus en expatriation et ce que tu apprécies le plus quand tu as fait ton expérience du voyage autour du monde, c'est quoi?
Alors,
Parce que comme c'est
ouais,
pas
c'est deux différentes.
deux
En
expériences pareilles.
expatriation, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce challenge. Tout est un peu à découvrir, en fait. Je trouve ça passionnant. Je trouve ça. Je trouve, ouais, c'est vraiment. J'adore, en fait, de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles choses. Parfois c'est compliqué. Parfois, tu es coincé dans des démarches et tu comprends pas comment ça fonctionne dans le pays et tout ça. Mais en général, tu as quand même une satisfaction quand tu y arrives. Et par contre, voilà, tu as tout à découvrir. C'est d'une richesse incroyable. Je me souviens, la première année est intense, mais tellement riche, quoi. Et j'ai adoré aussi ces nouvelles rencontres. Je trouve ça génial, en fait, de tous ces gens qui se retrouvent. Et puis finalement, tout le monde part avec un peu une page blanche. Et finalement, tu te retrouves avec des gens que tu n'aurais sans doute peut-être pas rencontrés dans ton propre pays, même si, ben, voilà, même si c'est des Français qui se retrouvent ensemble, peut-être que voilà, ils n'auraient pas spécialement sympathisé dans d'autres circonstances. Et en fait, tu te fais des super amitiés aussi. Donc voilà, ça, j'ai vraiment adoré. Et puis
Bien sûr.
j'ai adoré l'Afrique du Sud, quoi, le pays en lui-même. Et alors, en tour du monde, c'est ce que je te disais, vraiment, ce qui m'a le plus, c'est cette liberté, quoi. Moi, c'était vraiment ce que je recherchais, c'était cette liberté, redevenir un peu maître de son temps. Et ça, franchement, on l'a complètement ressenti et c'était complètement réussi, quoi. Et ça n'a
Et ça
pas
n'a
de
pas de
prix,
prix.
exactement.
toi, tu es devenue un peu la
Ouais.
spécialiste de l'Afrique, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui te
Alors,
fascine
écoute,
là-bas?
j'étais pas spécialiste avant d'arriver du tout en Afrique du Sud. Hein. J'étais
Oui.
allée 2 fois en Afrique en général. Mon mari a grandi en Afrique, donc voilà, il y avait quand même quelque chose dans l'histoire familiale, une fascination, tout ça. Et donc on arrive là-bas, on ne savait pas pour combien de temps on restait. Ça pouvait être une expat assez courte, et on s'est vraiment mis comme objectif d'en profiter un max, et de commencer, enfin, tout de suite de voyager, de visiter le plus d'endroits possible, de vraiment profiter. Et donc le premier week-end où j'arrivais en expatriation avec ce bébé d'un mois et les 2 jeunes enfants, on partait en safari. Et finalement, ça a un peu donné le ton pour la suite.
Oh là là.
De Johannesburg, c'est assez facile, en fait, hein. Tu fais 2 heures de route, tu étais en safari, hein, donc c'est assez simple. Et donc, ça a donné le
C'est
ton
fou.
par la suite et on a voyagé vraiment énormément parce qu'on voulait en profiter. Et au plus on voyageait, au plus on se disait, mais c'est génial, en fait, de vivre ça avec les enfants. On voyait que c'était pas si compliqué. Alors que quand on habitait en Belgique avant ça, on voyageait toujours beaucoup, mais souvent sans enfants, parce que mes parents les prenaient souvent. Et donc, on se faisait des beaux voyages, un peu aventure, mais à deux, quoi. Et donc là, on arrive là-bas, évidemment, il n'y a plus les parents à côté. Et donc, on prend à chaque fois les enfants et on se dit, mais en fait, c'est super, quoi. C'est
Ben
vraiment génial. Et donc,
oui.
voilà, c'est coup de cœur total dès les premiers safaris, dès les premiers moments. Coup de cœur pour nous, coup de cœur pour les filles qui adhèrent complètement. Et moi, je les
Ah
vois
bah oui.
heureuses comme elles n'ont jamais été, quoi. Et on partait en fait souvent assez léger. On prenait quasi pas de jeu. Et pendant 4-5 jours, elles vont jouer avec un bâton dans la terre. Elles reviennent, mais aux anges. Elles regardent les traces. Enfin, voilà, j'avais l'impression d'avoir des
Ouais,
enfants
elles reviennent à des
sauvages,
choses
tu vois,
concrètes, quoi.
de côté, retrouver ce
Ouais.
côté sauvage qui est sans doute en chacun de nous et qu'on perd un peu trop parfois. Et donc vraiment, j'ai complètement adoré, les enfants ont complètement adoré, tout le monde a complètement adoré. Et donc on a commencé à voyager, 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 voyager. Et j'aimais tellement ça, j'aimais tellement organiser ça, c'est que j'avais un peu aussi un radar. Dès que quelqu'un me parlait d'un endroit, j'enregistrais le truc dans ma tête, je le notais, enfin voilà, j'avais. Assez vite, au bout de quelques temps, j'avais un carnet d'adresses assez fourni pour les familles, en tout cas, de super endroits dans différents coins, entre ce que moi j'avais essayé et ce dont on m'avait parlé, mais que j'avais bien noté, quoi. Et les gens l'ont su assez vite, et donc on me demandait souvent conseil, d'abord juste dans la communauté d'expats, et puis en fait ça s'est élargi, et je recevais des mails d'amis, 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 enfin tu vois, des gens que je connaissais pas du tout, qui me demandaient, tiens, on voudrait venir, qu'est-ce que tu penses de cet itinéraire, est-ce que tu aurais un hôtel au Cap? Et j'ai fini par avoir, tu sais, des documents types que je forwardais avec mes meilleures adresses au Cap, au Kruger et tout. Et en parallèle, on m'a proposé d'écrire pour des sites, pour un site, par exemple Little Voyageur, qui un site qui parle des voyages en famille, qui cherchait des mamans expatriées qui voyageaient dans d'autres pays et tout. Donc j'ai commencé à écrire pour elle. Et en fait, l'un dans l'autre, je me suis dit, mais en fait, j'y passe quand même beaucoup de temps. Est-ce que je ne ferai pas un blog pour que ce soit accessible à tout le monde, finalement, toutes ces adresses que je forward petit à petit? Je voyais vraiment que c'était utile, qu'il y avait vraiment une demande, que les gens étaient super contents après quand je leur envoyais telle adresse. Et je me suis dit, en fait, ce serait tellement plus facile que je mette tout sur un blog et comme ça, les gens y accèdent super facilement. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Et c'est comme
Et c'est
ça
comme
que,
ça que tu es
voilà,
devenue
de fil en
spécialiste
aiguille, à
de
force de
l'Afrique.
voyager, puis en créant le blog. Le blog a fait qu'on a voyagé sans doute encore plus, et de manière toujours un peu plus aventureuse. Je dirais que
Bien
les
sûr.
premières années, surtout avec notre dernière qui était toute petite, on est resté dans une zone assez confortable. On ne voulait pas aller dans des zones impaludées pour pas devoir prendre, tu vois, de médicaments pour la malaria. Et puis assez vite, on est sorti de cette zone-là, et on a fait de plus en plus jusqu'à faire des trucs. Que peu de personnes font, quoi. On a fait du bateau, tu sais, au nord du Mozambique, dans des archipels où personne
Oh
ne
là
va. On a campé sur des îles désertes. Enfin, voilà, on a fait vraiment des trucs que peu de personnes font. Mais voilà,
là.
tout le monde
Tu
suivait, tout
nous
le monde
donnes envie.
adorait. Ah oui, c'est
Ouais,
venu
donc
vraiment
c'est
au
venu au
fur et à
fur et à
mesure,
mesure
quoi.
tout ça et ta
Exactement.
fascination pour bien sûr. Et alors, je vais te poser une question un peu difficile. Dans tous les pays que vous avez visités, que vous avez vécu de l'intérieur, c'est
Oh là,
quel est
je
l'art de
sentais la
vivre qui t'a
question
le plus
arriver.
plu?
Écoute, c'est
Ah
super
bah
difficile.
oui, il fallait.
On
Comment
me pose
cela?
souvent la question. Alors, il y a différentes choses. Un de nos coups de cœur, ça a été clairement la Namibie, où on a été plusieurs fois. Mais là, je ne vais pas te dire que c'est pour l'art de vivre, parce qu'en fait, la Namibie, c'est un grand désert. Tu rencontres quasi personne. Donc, c'est plus pour les paysages, cette sensation de liberté, d'espace immense, infini que tu as. Voilà, ça, vraiment, c'est un grand coup de cœur. Pour les safaris, je dirais que le plus sauvage, les safaris les plus dingues qu'on ait fait, c'est au Botswana, qui reste pour moi le top du top au niveau safari. Et par... Ouais.
Mais c'est pas très, excuse-moi, je te coupe, mais c'est pas très dangereux. Enfin, tu vois, c'est encore sûrement
Dangereux, à
un
quel
cliché
niveau? Je
de
veux
ma
dire...
part.
Ah non, non, le
Bah, je sais
Botswana,
pas,
c'est la cerise sur
sécurité,
le
non,
gâteau.
ça
Non,
va?
c'est vraiment pas dangereux. Ah non, vraiment pas du tout.
Ah bon?
Oui,
D'accord.
c'est vrai,
Ok.
c'est vraiment hyper safe. Il y a vraiment
Ok.
tout, comme la Namibie d'ailleurs, hein, c'est vraiment, c'est hyper safe. Donc ça, il n'y a aucun
Oui.
souci. Je dirais que le danger, c'est que
Donc pour le safari,
tu
pour les
loges
pays.
dans des
Ouais,
lodges où tout est ouvert. Donc, enfin, on a eu plusieurs fois les lions juste devant notre tente, quoi. Tu vois, donc voilà, ça, c'est ce danger-là qu'il faut prendre en
Oula.
compte. Et donc, il faut le faire de manière correcte et
Ah
respectée. Là aussi, tu as des mesures de sécurité à respecter, mais ce n'est pas les mêmes que dans Johannesburg.
c'est ça.
Voilà.
Ah, c'est fou ça. Donc, ok, alors on
Voilà, coup de
retient
cœur
les
safari,
coups de cœur paysage,
voilà. Et
Namibie, le
alors,
safari,
pour la
le Botswana.
population, vraiment, les gens, le côté Afrique, comme tu l'imagines, hyper chaleureux et tout, je dirais le Malawi et le Mozambique, qui sont des pays qui sont quand même nettement moins développés que l'Afrique du Sud. Donc, tu n'as pas des villes aussi modernes. Par contre, tu as encore beaucoup de villages, comme tu les imagines. Voilà, et les gens sont super gentils, super adorables. Tu as des sourires partout. Enfin, les couleurs, tu sais, toutes ces femmes avec ces vêtements vraiment de couleur qui portent des choses le long des routes, la terre rouge. Voilà, tu as vraiment la carte postale de l'Afrique que tu imagines, les baobabs, la carte postale de l'Afrique que tu imagines, quoi.
Super. Et là, vous avez envie de
On a
repartir
envie de
autour du
repartir,
monde?
écoute, pas spécialement autour du monde, parce que voilà, c'est quand même une sacrée organisation et tout. Mais en rentrant autour du monde, par
Oui,
exemple, on
bien
s'était
sûr.
dit que l'été 2021, donc on est rentré, tu vois, en mars 2020, l'été 2021, on repartirait bien pour 2 mois. Parce que ce qu'on a remarqué, et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent aux gens qui rêvent de partir, c'est que tout le bénéfice de notre tour du monde, ce que je rêvais de trouver, cette liberté, tout ça, au bout de 2 mois, on l'avait déjà complètement. Il ne faut pas spécialement partir un an. Et
Ah
je
oui.
pense que dans la plupart des familles, ça peut se mettre à un moment dans ta carrière, dans la vie scolaire de tes enfants, de partir juillet-août, quoi. Enfin, franchement, il n'y a rien qui se passe pendant ces 2 mois. Tu peux prendre une pause
Oui,
carrière,
c'est
quelque
ça.
chose. Et franchement, au bout de 2 mois, on avait déjà fait le 1er septembre, quand les enfants rentraient à l'école, normalement, quand on savait que les copains, si tu veux, rentrer en classe. On avait déjà fait le Japon, la
Ouais, c'est ça.
Polynésie et une partie de l'Australie. Mais on était sur une autre planète, quoi. On avait déjà complètement ce bénéfice de tour du monde. Donc, on s'est dit, mais en fait, ça, on va refaire, quoi. On va refaire tous les 3 ans,
Ah oui.
partir 2 mois, faire. Alors, on imaginait faire le Brésil pendant 2 mois ou faire. Enfin, voilà, ça dépend des saisons aussi, l'Asie. Ouais, l'Inde.
Est-ce
Ah,
que l'Inde,
j'adorais l'Inde. Ouais, ça fait
l'Inde.
partie aussi de ma liste. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on s'était dit qu'on allait faire, mais malheureusement, je crois que ce ne sera pas faisable cette année. Donc voilà.
Non,
mais voilà.
Mais on partira tous avec toi. Tiens, on va tous partir avec tu sais, par rapport à
alors,
ton blog,
pourquoi ce nom ? Enfin, pas par hasard, mais je voulais un nom qui sonne, et en tout cas qu'on retienne et qu'on arrive à prononcer en français comme en anglais, parce que bon, là-bas, tous les gens que je contactais étaient anglophones, donc ça devait être quelque chose d'assez facile. Ensuite, je voulais quelque chose qui ne soit pas trop descriptif. Donc, je savais que je le lançais, mais je ne savais pas vers quoi ça allait mener, et peut-être qu'on allait s'expatrier après en Argentine. Je ne voulais pas qu'il soit marqué Afrique dans le nom du blog, ni même voyage, travel ou quelque chose comme ça, parce que j'aurais pu après m'orienter vers autre chose. Je voulais que ce soit une sphère de liberté d'expression, si tu veux, et qu'elle soit... voilà, que ce ne soit pas déterminé exactement ce que c'était rien qu'avec le nom. Et en fait, j'ai repris ce nom qui ne veut donc rien dire ni en français ni en anglais, mais dans les deux langues, il y a cette connotation un peu poétique qui colle finalement assez bien avec mon univers, avec les photos que je mets sur Instagram, avec la manière dont je raconte les voyages. Et voilà, écoute, c'est un peu venu comme ça, voilà.
C'est venu tout simplement. Très bien. Et en préparant l'épisode, tu me disais que tu avais du mal à voir ton projet au départ comme quelque chose de professionnel, en tout cas au début. Donc, est-ce que c'est une sorte de
certainement.
Syndrome de
Non, alors il y a deux
l'imposteur?
choses. Je pense d'abord, quand je l'ai lancé, honnêtement, je l'ai lancé, mais plus comme un passe-temps, quoi. Enfin, tu vois, je t'ai dit, je ne suis pas arrivée en Afrique du Sud en me disant je rêve de bosser et tout. Au contraire, je me suis dit, moi, je vais profiter de ces années en Afrique du Sud, je vais profiter de tout ça et tout. Et donc, je l'ai lancé vraiment un petit peu comme un passe-temps. Donc, ça, c'était la première chose. Alors, je voulais, quitte à faire les choses, autant les faire bien. Donc, je voulais quand même que le design du blog, que tout ça, ça a l'air très pro, mais je le voyais plus comme un passe-temps. Deuxièmement, enfin, voilà, dans l'univers des blogs, pour avoir un peu lu pas mal de choses, avant d'en faire un vrai projet pro qui te rapporte quelque chose dont tu peux vivre et tout ça, c'est vraiment infime. Donc, la plupart des gens qui avaient un blog, ils conseillaient en fait de dire, voilà, faites-le pour vous faire plaisir, quoi. Faites-le vraiment pour vous faire plaisir. Après, si ça arrive, si ça aboutit sur finalement des compensations, des avantages financiers ou pas, enfin voilà, tant mieux. Mais ne misez pas tout là-dessus parce que vous allez être déçus, quoi. Hein, pour le nombre
Mais au
d'heures que
départ,
vous
c'est
allez
pas ça, quoi.
travailler, c'est sûr que ça ne va pas vous rapporter quelque chose, quoi. Donc, j'avais un peu ça en tête comme ça. Et puis, donc. Voilà, j'ai commencé comme ça sans vraiment imaginer que ça allait aboutir à quelque chose de professionnel. Et puis, c'est au fur et à mesure, en fait, il a été assez vite bien référencé, assez vite partagé. J'ai eu très, très vite plein de gens qui me contactaient pour me poser des questions. Ça, je ne m'attendais pas du tout, en fait. Des dizaines de mails par semaine de gens voilà, qui me voyaient comme la spécialiste de l'Afrique tout de suite et qui me demandaient qu'est-ce que tu penses entre la Namibie et tel
Bah oui.
pays. Enfin, voilà. Donc, assez vite, ça a fonctionné assez bien. Et là où j'ai commencé à y voir quelque chose de professionnel, c'est que je me suis rendu compte aussi que j'étais, sans l'avoir voulu, mais dans une niche pour aussi tout le secteur du tourisme. Donc, en fait, mon blog parle principalement des voyages donc en Afrique, mais en famille. Et ces voyages en famille, au moment où j'ai lancé le blog, c'était une des tendances les plus marquantes du secteur du tourisme. Vraiment qui montait, parce que de plus en plus, il y avait des voyages, des demandes de voyages même intergénérationnels. Tu sais, des grands-parents qui emmènent leurs enfants et petits-enfants, des
Bien
beaux
sûr.
voyages comme ça en famille, ou même notre génération qui fait des enfants finalement plus tard. Et donc, qui a parfois plus les moyens que si tu avais eu ton enfant à 20 ans et qui veut en profiter, qui travaille beaucoup, mais qui veut en profiter en faisant des beaux voyages avec leurs enfants, eh ben, les agences, les lodges, les groupes d'hôtels faisaient face finalement à une énorme demande qui était assez récente de voyages en famille en Afrique. Et donc, j'étais un peu au bon endroit au bon moment et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à parfois contacter des lodges au début simplement pour prendre des informations. Donc parfois je préparais un article sur le Kruger ou sur un endroit et j'avais repéré des lodges et je les contactais pour savoir exactement quelles étaient leurs politiques en matière de famille. Donc par exemple, est-ce qu'ils avaient des chambres familiales? Est-ce qu'ils acceptaient les enfants de tous les âges? Parce que dans les safaris, c'est pas du tout une évidence, il y a souvent des limites d'âge. Est-ce que les enfants. Mais
Ah
oui,
oui, ah bah,
évidemment. Est-ce que les enfants
c'est bien
pouvaient aller en
savoir.
safari? Parce que parfois l'hôtel dit oui, l'enfant peut venir, mais il ne peut pas aller en safari, donc c'est un peu moins intéressant. Enfin voilà, qu'est-ce qu'ils proposaient en général? Et donc j'ai commencé à contacter des lodges comme ça. Et un jour, je reçois une réponse d'un groupe qui s'appelle Wilderness Safari. Alors, c'est un groupe absolument incroyable, qui a des lodges dans toute l'Afrique australe, mais des lodges hyper luxueux, enfin impayables, des trucs magnifiques, quoi. Vraiment haut de gamme, exactement.
Haut de gamme, quoi. Haut de gamme.
Et au lieu de me répondre simplement, la responsable vraiment presse, un peu marketing et tout ça, me répond qu'elle serait vraiment hyper, hyper contente de me rencontrer parce qu'ils trouvent que, que mon blog est super et que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont envie de creuser et tout ça. Et donc, voilà. Donc, en fait, elle m'invite à venir les rencontrer. Et là, je me rends compte qu'ils sont vraiment super intéressés, non seulement pour nous inviter, pour faire de la pub pour leur lodge et tout ça, mais même, si tu veux, à avoir mon expertise de voyage en famille, parce qu'ils voudraient avoir mon avis sur, si tu veux, l'expérience voyage en famille depuis le départ, à partir du moment où tu consultes leur site internet, jusqu'au moment où tu arrives dans les lodges, enfin voilà, tout ce que finalement, en ayant beaucoup voyagé avec des enfants, je leur ai tout de suite dit, je dis, bah voilà, sur votre site internet, clairement, j'ai pas l'information. Je sais que j'ai envie de voyager avec des enfants, je sais que je voudrais parce que c'est des lodges en tente généralement, tu vois, mais des tentes ultra luxueuses et il y a parfois des tentes familiales. Bah, franchement, il faut fouiller 45 minutes avant de trouver quel lodge dans votre portefeuille, enfin, dans votre, si tu veux, dans votre éventail de lodges, quoi. Dans votre gamme,
dans votre gamme.
C'est dommage parce que je pense que les gens se découragent alors que vous auriez simplement un onglet, une catégorie family travel, et ben tu arriverais tout de suite sur l'information avec des itinéraires conseillés, avec les lodges qui sont adaptés, avec quel âge sont. Voilà. Et donc, ça, ils étaient super intéressés en fait par ces. Voilà.
Est-ce que si t'as donné c'est ce qui t'a donné tout ça, te dire bon bah en fait mon projet c'est pas que un blog comme ça.
J'ai une certaine expertise vis-à-vis des lodges parce que j'ai une expertise de voyage en famille et tout ça. Et aussi ils aimaient beaucoup le ton du lodge du blog. Enfin le ton, ils disaient voilà, on a beaucoup de demandes aux blogueurs, mais c'est souvent un petit peu la même chose, tu vois, c'est-à-dire le couple qui va se prendre en photo avec la coupe de champagne devant la piscine, tu vois, très un peu cliché.
Ah
voilà.
Oui.
Et
oui.
Ils disent voilà ce qu'on aime bien dans votre
très, très cliché, quoi. Oui.
C'est une vraie famille qui profite des choses et on voit vos enfants, on sent qu'ils s'amusent vraiment. Il y a cette espèce de candeur, de fraîcheur, de tout ça. Et ils aimaient bien ça aussi, tu vois. Donc je me suis dit en fait. Je l'ai pas fait exprès, je l'ai fait comme moi je le sentais, et je déteste demander aux enfants de poser. Donc
bien sûr.
La plupart du temps ils vont être de dos, mais en fait c'est parce que ils courent et en fait ça donne ce côté naturel et tout. Et donc voilà, ça ils aimaient beaucoup aussi. Voilà. Donc,
oui, puis dans l'instant,
lodges, si tu veux, je me suis rendu compte que j'avais cette légitimité là, non seulement parce qu'ils aimaient ce que j'avais créé comme univers, et en plus que j'avais acquis une expertise de voyage en famille. Et vis-à-vis de mes lecteurs, je me suis rendu compte que j'avais aussi une vraie légitimité parce que, oui, j'avais acquis une énorme expertise sur les voyages en Afrique, quoi. Donc, et puis tu te renseignes de plus en plus. Voilà, j'étais une éponge à information, enfin voilà, voilà. Donc là, je me suis dit, ok, en fait, ça peut être quelque chose de vraiment professionnel, quoi. Alors après, il faut encore trouver comment tu peux avoir des revenus et tout ça. C'est pas une évidence, mais en tout cas, c'était bien parti. C'est passé à ce moment-là du hobby à quelque chose de vraiment plus pro. Tu sais, c'est le moment où je me suis fait des cartes de visite. Enfin voilà, j'ai un peu plus assumé.
Oui, bien sûr. Tu vois. Oui, ouais, bien voilà. Sûr. Non, mais voilà, t'as assumé le fait que ça y est, c'était passé à un stade supérieur. Et justement, pour ceux qui voudraient créer leur propre projet, est-ce que tu aurais un conseil à donner ?
Blog, blog
ou même,
aussi,
voilà, ou même propre projet.
Si on se trouve justement dans une situation d'expatriation, je trouve que c'est. Enfin voilà, il faut en profiter, quoi. Alors, moi, j'étais arrivée dans l'idée que je n'allais pas faire spécialement quelque chose. Mais en fait, je me suis rendu compte, quand est-ce que dans ma vie, j'aurais ce temps que je peux consacrer à quelque chose sans une pression d'aller tous les jours au boulot ou de tout de suite rapporter un salaire aussi. Donc voilà, en fait, c'est une chance, quoi, tu vois, de pouvoir consacrer cette période-là à ça. Ça, c'est déjà le premier conseil, c'est que si c'est quelque chose qui vous tente et que vous avez justement. Vous êtes en expat, ben profitez de ce moment-là pour tout remettre à plat. Parce que quand on est en expat, on part d'une page blanche et ça permet d'oublier ses propres préjugés, de la case dans laquelle on est rangé depuis des années, si tu veux, et de sortir un peu de notre zone de confort. Et donc voilà, ça je trouve qu'il faut vraiment en profiter.
Bien sûr.
Pour le reste, j'ai l'impression que ces projets, c'est toujours un peu un saut dans le vide et qu'il faut se lancer, faire de son mieux. Enfin voilà, il faut se planter parfois et c'est pas grave, ça fait partie du truc. Ça va pas décoller non plus en 2 jours. Il faut se mettre des petits objectifs réalisables et puis avancer pas à pas. Mais enfin, c'est quand même un long parcours généralement des projets hein, d'entrepreneuriat quoi. C'est pas ça se fait pas
Oui,
du
c'est
jour
ça.
au lendemain quoi. Donc voilà,
Oui.
il faut être
C'est pas
prêt
tout
à
cuit dans la
accepter
boue.
ça. Et
Ouais.
accepter de tout faire aussi. Ça, je me suis rendu compte, c'est
Accepter
que
là, que
quand
ça
tu es
prenne du temps, quoi.
entrepreneur, quand tu es indépendant, en fait, tu as 1000 casquettes.
Ah oui.
Tu as 1000 casquettes et en plus, ça s'arrête jamais. Voilà. Ça, il faut aussi un peu se rendre
C'est
compte que c'est
ça.
pas. Enfin, moi, écrire,
Ouais,
par
tout à
exemple, sur
fait.
mon blog, c'est même pas 5% de mon temps. Alors que les gens pensent que c'est ce que je fais en principal. Je dis, mais non, il faut gérer le référencement, le machin. Enfin, tu vois,
Oui, ah,
voilà. Il y a tout le
magnifique.
reste,
Ouais,
exactement.
ça, les photos, les tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après ces expériences de tour du monde et d'expatriation et d'entrepreneuriat aussi, qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur ta
Ah
famille?
oui,
Est-ce qu'il y a des
écoute.
valeurs
Non,
qui,
d'abord,
voilà,
je
qui sont
pense
ressorties de
que
tout ça?
tant l'expatriation que le tour du monde, que mon projet professionnel, je pense que ça nous a donné plus. Enfin, moi, ça m'a donné plus confiance en moi, quoi. C'est sûr que il faut oser, en fait. C'est aussi ça que les trois pour moi étaient un saut dans le vide. Si tu veux partir en expatriation, c'était mon premier saut dans le vide. Moi, j'avais jamais connu ça. J'avais toujours vécu en Belgique. J'étais dans ma zone de confort et je trouve que c'est vraiment un saut dans le vide et que c'est pas si simple. Le tour du monde, c'est encore un niveau au-dessus en termes de saut dans le vide parce que vraiment là, tu
Oui,
sors complètement de ta
ça
zone de
c'est
confort.
sûr, ça
Je
c'est.
peux te dire que je me souviens la veille du départ, on n'était vraiment pas fiers, quoi. On n'était pas fiers, quoi. Parce qu'on a eu un gros moment de solitude, de doute en se disant, mais est-ce qu'on n'est
On
pas cinglé, quoi? Est-ce qu'on n'est pas fou? Parce que, tu vois, tu déscolarises tes enfants, c'est même pas partir à deux de ces sacs à dos vraiment à 20 ans. Non, non, t'as 3 enfants, dont une
Oui,
qui est au
c'est ça.
collège. Enfin, tu te dis,
Oui,
mais on est complètement cinglé, quoi, tu vois.
oui.
Donc, il y a quand même vraiment. Et en plus, les gens te le font comprendre, parce que la plupart des gens. Enfin, voilà, il y a des gens à qui ça fait envie, mais il y a vraiment
Ouais.
beaucoup de gens qui te regardent,
Bah
qui disent,
oui.
ah ouais, cinglé, quoi. Donc voilà. Donc, c'est un très gros saut dans le vide. Et voilà, à moindre mesure, se lancer dans un projet entrepreneurial aussi. Et je pense que ça m'a appris que ça vaut tellement le coup de sauter dans le vide, quoi. Que quand tu as l'occasion, enfin, on ne vit qu'une fois. Et donc, voilà, quand tu as l'occasion de faire quelque chose qui finalement sort de complètement de ta routine, c'est tellement bien de le faire. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir eu déjà plusieurs vies. Alors que je serais restée en Belgique pendant toutes ces années, ce serait la même vie qui continue. Et donc, enfin voilà, je pense que ça a apporté du
Ouais.
piment, ça a
T'as
apporté
apporté du
et en plus,
piment
c'est
là.
toujours
T'as apporté du
faisable.
piment, une autre
Et
façon de
voilà.
voir les
Donc je pense que ça c'est et je pense que les enfants le retiendront aussi quoi. Ce côté, bah, vivez vos rêves, battez-vous pour que ça se réalise et surtout gardez aussi votre liberté parce que je
choses.
pense que ça c'est ce qu'on recherche autour du monde et c'est ce qu'on essaye de garder même. C'est pas facile, mais en revenant ici, si tu veux, j'ai essayé de ne pas trop rentrer dans les chaînes qui se mettaient de manière naturelle. Enfin voilà, on essaye de toujours avoir des week-ends libres pour pouvoir partir. Maintenant, c'est plus le cas, mais en last minute, de toujours se dire, je supporterais pas l'idée de me dire, ok, j'achète une maison et c'est ma maison pour toute ma vie, quoi. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que pour moi c'est vraiment impossible de me dire. Oh, ça m'angoisse
Oui.
complet. J'ai besoin de me
Ça
dire,
t'angoisse,
j'ai la
ça t'angoisse.
liberté. J'ai la liberté. Peut-être qu'on va acheter une maison, mais c'est pas. Tu voulais me dire, même si on achète quelque chose, eh ben, si 1 an après il faut revendre parce qu'on a un autre projet et qu'on veut y aller, ben on y va en fait, tu vois. Exactement.
Oui, parce que un peu ton mot d'ordre, c'est la liberté,
Et
quoi.
liberté,
Liberté de
d'ailleurs,
temps,
même dans mon
liberté de ce que
projet
tu as envie de
pro, c'est
faire
mon mot
et de
d'ordre
profiter de la
aussi.
vie, quoi.
C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en créant mon job, je me suis créé une vraie sphère de liberté d'expression et je le fais comme je veux. Donc il y a des moments où je fais rien, où je publie pas sur Instagram, sur mon blog et voilà. Et c'est pas grave et il faudrait si je veux
Et
tout
c'est
faire
pas grave,
parfait,
et
cocher
c'est pas
toutes les
grave.
cases et gagner des dizaines de milliers de followers, ben je ferais tout à fait différemment. Mais en fait non, j'ai envie juste de faire les choses comme j'ai envie et de garder cette liberté-là et j'essaye de l'appliquer pour tout. Mais c'est vraiment c'est pas si facile. Il y a toujours vraiment une démarche qu'il faut faire face à chaque décision. Par exemple, Oui, mon blog a amené, enfin c'est surtout
Oui, il y a
le
des
compte
marchés à
Instagram,
participer, ouais.
qui a pas mal de followers et tout, a amené pas mal de propositions de marques qui me proposent de m'envoyer des produits. Enfin voilà, super, au début, ton ego est très flatté, c'est super valorisant. Tu te dis, ah ben c'est que quand même, j'ai un univers qui les attire, c'est que quand même, je suis arrivée quelque part. Enfin tu vois, au début, tu es un peu comme ça dans ta réflexion. Et puis après, chaque fois, je me dis, mais en fait.
Oui, bien sûr.
En
Ouais,
fait,
je
non, en
comprends.
fait, j'ai pas envie. Pour l'instant, je partage que des trucs comme ça, complètement spontanément, et j'ai pas spécialement envie de recevoir ça ou ça, qui est ch très chouette en l'occurrence, et je pourrais peut-être un jour l'acheter moi-même, mais j'ai pas envie de le recevoir et puis d'avoir cette obligation de faire de la publicité, de. Enfin, voilà. Pour l'instant, ça rentre pas dans mon schéma. Peut-être qu'un jour, je le ferai plus et que voilà, mais ça rentre pas dans mon schéma, et c'est aussi une manière de garder ma liberté, en fait.
Bien sûr. Et je vais rebondir sur ce que tu
Ouais,
disais
dis-moi.
sur les réseaux sociaux. Donc là, ça fait partie du jeu. Si on veut gagner en
Alors, je
visibilité,
les utilise depuis le
toi,
début,
tu
donc
voilà,
bah,
tu
j'ai
les
créé mon compte avant d'avoir un
utilises
blog hein, et Instagram, donc c'était pas à la base, c'était pas ça, mais je l'ai switché en compte pro depuis, j'ai créé une page Facebook pro et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début de mon activité, de mon blog, c'était vraiment le blog qui était mon canal, si tu veux, d'expression, voilà, privilégié. Et Instagram ou Facebook me servaient à relayer ce que je partageais sur mon blog. Et en fait, avec les années, la communauté sur Instagram a augmenté et ça s'est un peu inversé. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je partage plus de choses sur Instagram que sur mon blog parce que tu as ce côté très spontané qui va très vite. Je te donne un exemple. On était par exemple à Venise cet été. Donc, on a fait un last minute où on s'est un peu échappé et tout. Et j'ai pas fait d'article sur le blog. Par contre, j'ai partagé énormément sur Insta, plein de stories. Et en story, j'ai fait un vrai carnet d'adresses avec où loger, où les restos, les boutiques, les choses à faire et tout ça. Et donc, et vraiment de plus en plus souvent, je fais ça, c'est-à-dire que je partage énormément. Je crée comme un article, mais ça, je le fais, si tu veux, sur mon téléphone, dans l'avion. En fait, c'est tellement plus adapté aussi à ma vie de tous les jours et tout, alors que pour écrire un article sur mon blog, je dois vraiment être une journée entière vraiment devant l'ordi, avoir le temps de trier les photos. Ici, sur Insta, ça se fait tellement facilement, tellement de manière intuitive que voilà, Instagram est devenu le nouveau canal privilégié voilà, d'expression par rapport à ce que je fais. Et je le vois aussi dans les hôtels, les lodges et tout ça. Au début, c'était plus intéressé par mon blog, et maintenant, ils sont tout aussi intéressés par Instagram que par le blog. Donc voilà, ça évolue, mais clairement, moi, ça fait partie du jeu. Mais de
Donc ça fait
nouveau, je
partie, ouais.
refuse aussi d'être esclave de ça, quoi. Je sais très bien ce qu'il faut faire. En théorie, il faudrait
Oui, parce que
publier
c'est
tous les jours,
chronophage.
publier toujours à une heure précise, machin. Tout ça, je le fais absolument pas. Parfois, je publie rien pendant un mois sur Insta. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est ma manière de faire. Et c'est pas grave, quoi. Tu vois, au
Et c'est pas
contraire, quoi.
grave.
Tu vois, il faut pas se forcer non plus parce que sinon, ça devient pénible, quoi.
Ouais, bien sûr. Alors écoute, Sophie, on va
Voilà, je
finir cette
stresse.
interview par des questions du tac au tac. Alors tu es prête? On y va. Alors pour un
Alors moi, je
tour du
dirais
monde, tu
appareil
conseilles
photo, hein, parce
carnet
que
de
tu sais,
croquis
j'adore
ou
les
appareil
photos, mais
photo?
ma fille, c'était carnet de croquis. Ouais.
Je sais, c'est pour ça que je demande.
Oh,
Camping-car ou
je
voiture
vois pas te faire
Grampage de
attendre.
1928?
Écoute, sous les photos, ça donne mieux la grimpée. Je pense quand même que le confort du camping-car est préférable.
Ouais. Et puis, vas-y.
Ah, le
Oui, le plus
côté
impressionnant sur l'île
magique
de
que tu
Pâques.
sens en posant le pied sur l'île. Il y a quelque chose de magnétique dans cette île, d'envoûtant, et vraiment, je l'ai ressenti, mais tellement fort. Ah, mais c'est marrant parce que je l'ai mis
C'est mon
dans
rêve
mes
d'y aller
programmes
là-bas.
autour du monde parce
Ah
que
oui,
c'est
c'est mon
magnifique
rêve.
et tout, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce côté magique, quoi. Ouais, il faut.
Ouais. J'irai, je te verrai des
Ah,
photos.
ça c'est dur. J'irai quand même Afrique
Afrique ou
parce que mon
Australie?
cœur est resté là-bas, mais voilà, l'Australie, gros gros coup de cœur.
Alors,
Liberté.
ton mot préféré que tu as appris lors de tes voyages?
Voilà, tu vois, ça devient un peu notre mantra principal, liberté.
Ok.
Balfaire,
et pour finir, pour toi, The Musette, c'est...
Enfin, oui, je ne sais pas si tu as interviewé des hommes, parfois, j'en sais rien. En tout cas, d'expat, ultra dynamique, et j'adore, c'est hyper inspirant.
Il y en a...
Pour tous ces parcours, toutes ces choses, toute cette créativité, tu dis, waouh, on est fort quand même. Hein.
C'est ça. Merci beaucoup, Sophie, pour ce tour du monde, pour un partage d'expérience, ta vision de l'entrepreneuriat aussi, ta franchise. Voilà, on a rêvé. Je pense qu'on va tous vouloir partir en tour du monde.
C'était très sympa. Ah, mais c'est ce que je conseille à tout le monde.
Je me dis, ça a une palette sur deux mois, c'est pas bête du tout, ça.
Tout le monde foncer, et ça, vous pouvez vraiment vous le mettre au programme, quoi. Parle-en à ton mari ce soir, tu vois.
Ok, on va se garder ça comme idée. Et donc, vous pouvez... Exactement, je vais lui dire. Et donc, vous pouvez en savoir davantage hein, sur l'histoire de Sophie, sur son site, exactement, où elle répond à plein d'autres questions, notamment voilà, comment préparer son voyage. Et voilà, la suivre sur Insta, sur son blog, Poésie by Sophie. Merci Sophie, à bientôt.
Voilà, écoute, c'était très sympa, comme d'hab.
Super Sophie, merci beaucoup.
Je suis ravie de vous avoir fait découvrir une nouvelle histoire d'expatpreneur. Un grand merci à notre invité de s'être livré avec sincérité et de nous avoir donné plein de bons conseils. Si vous souhaitez soutenir et faire briller nos entrepreneurs aux quatre coins du monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les différentes plateformes. À bientôt pour un prochain podcast d'Expatpreneur.